Bonjour à tous. Alors nous allons démarrer. Comme vous avez vu, Fabrice Midal est très ponctuel.
Bonjour.
Merci. Merci d'être là avec nous à l'heure après deux jours intenses de salon. Est-ce que, pour savoir comment on va organiser cette rencontre, qui parmi vous connaît déjà la méditation ou a déjà pratiqué?
Presque tout le monde.
Donc presque tout le monde. Là, c'est mal parti pour moi parce qu'il y a la moitié de mes questions qui tombent. Je plaisante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est la méditation ou pas du tout? Vous savez tous à peu près. Moi, ce que je vous propose, parce que nous avons la chance d'être là entre nous, d'avoir Fabrice Midal pour nous tout seul pendant une heure, c'est de faire une rencontre, pas une grande conférence académique, justement parce que vous connaissez la méditation, mais de faire une rencontre intimiste, de profiter du fait de l'avoir avec nous pour lui poser vous aussi vos questions liées à la méditation, vos problématiques peut-être, votre envie, je ne sais pas moi, d'intégrer une école de méditation, d'enseigner vous-même, je ne sais pas. Je dis cela en plaisantant, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à poser vos questions. On n'est jamais à l'aise dans une rencontre comme ça, avec des fauteuils, des verres, un conférencier, mais il ne faut pas hésiter parce que c'est la chance qu'on a ce soir. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas complètement le parcours de Fabrice Midal, j'ai fait une petite introduction un peu scolaire, mais qui nous dit un peu ce qu'il a écrit, ce qu'il a fait. Il a dédicacé ici à Morse « Comment la philosophie peut nous sauver ». C'est son dernier livre, mais ce n'est pas de celui-là que nous parlerons ce soir. Nous parlerons surtout de la méditation et de l'interaction aussi de la méditation avec les arts, avec la psychologie, avec les neurosciences. Voilà un peu tout cela. Alors, Fabrice Midal est aussi, cela on le sait moins, éditeur pour Évolution, Pocket, L'Esprit d'Ouverture pour Belfond. Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont Risquer la liberté, paru aux éditions du Seuil, et Si de l'amour, on ne savait rien, chez Albin Michel, Auschwitz ou l'impossible regard, au Seuil, Pourquoi la poésie, chez Pocket, Frappe le ciel, écoute le bruit, aux Arènes, c'est un livre de méditation que j'avais quelque part, mais que j'ai dû égarer. Nous en parlerons un peu. Il enseigne de manière bénévole la méditation au sein de l'École occidentale de méditation qui promeut une approche laïque de la méditation en rapport à notre vie quotidienne et en dialogue avec la pensée et la poésie d'Occident. À 20 ans, il rencontre l'enseignement de, excusez-moi si je prononce très mal, Fabrice Midal, Shogyam Trungpa.
Formidable.
je me suis entraînée. Et s'engage dans la pratique de la méditation telle que ce maître l'a présentée pour l'Occident. Il est d'ailleurs l'auteur d'une biographie de Trungpa, au Seuil, traduite déjà dans de nombreuses langues. Il a aussi été en grande partie introduit à la méditation par le neurobiologiste Francisco Varela, donc il évoque l'influence et l'importance d'en risquer la liberté au Seuil. Il a été aussi formé par Francis Fédier, qui est son maître en philosophie, et qui est venu aussi d'ailleurs enseigner plusieurs fois à l'École occidentale de méditation. Vous témoignez dans les livres, et puis je pourrais citer encore tous vos livres, mais ce qu'on voit, ce qu'on sent quand on vous lit, quand on lit vos livres sur la méditation, est-ce que vous essayez de nous apprendre à la différence de ce que nous apprennent la plupart des revues de la méditation comme outil, comme technique de bien-être? Vous nous expliquez, on le sent très vite dans vos livres, que justement la méditation n'est pas une technique.
Ah ben, je suis content, ça commence bien. Ouf, bah voilà. Ah ben là, j'ai de la chance. Aujourd'hui, ah ben, j'ai de la chance. Ça, c'est, s'il n'y avait pas de public, je vous embrasserais. Parce que là, comme commencer comme ça, alors qu'en général, on commence moins. Alors la méditation, c'est un outil pour essayer d'être plus performant. Alors je me dis, ouïaïaï, comment je vais essayer de remonter la barre? Oui, vous avez raison. On peut dire que la question qui m'anime, c'est comment transmettre la pratique de la méditation aujourd'hui? Comment la transmettre? Pourquoi la transmettre? Je crois que c'est ça qui est le fil directeur de mon travail et de tous mes livres, aussi différents soient-ils. À première vue, quel est le lien entre un livre sur Auschwitz, un livre sur la poésie, un livre sur l'art moderne, un livre sur la philosophie et un livre sur la méditation? La question centrale, c'est pourquoi transmettre la méditation? Comment transmettre la méditation? Et la première chose, c'est que pourquoi transmettre la méditation? Parce que la méditation peut aider chacun d'entre nous aujourd'hui à retrouver un rapport plus libre à notre propre existence. Un rapport plus libre. Et c'est ça qui aujourd'hui fait question, fait problème, quand la méditation... parce que la question pour chacun d'entre nous, c'est comment être un peu plus libre, comment nous libérer de tout un ensemble de carcans idéologiques, sociaux, mais aussi personnels. Et le problème, c'est que si la méditation est réduite à un instrument pour essayer de mieux gérer ses affects, avec le mot « gérer » qui est un mot du langage économique, donc une sorte de gestion, de plus grand contrôle, à ce moment-là, la méditation n'est qu'un élément de cette tentative aujourd'hui dominante de tout contrôler et de tout dominer. Donc je ne vois pas comment un tel rapport, une telle approche, va pouvoir nous aider. Et donc ma perspective est très radicale. Je ne crois pas que le développement de la méditation soit nécessairement une bonne chose. Elle peut être une bonne chose, comme elle pourrait être une catastrophe. Je ne vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit hier, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là, mais si dans une entreprise, vous arrivez que vous êtes harcelé par votre supérieur hiérarchique, vous vous sentez très mal, et qu'on vous dise « Ah, mais vous vous sentez mal, vous n'avez qu'à pratiquer pour mieux gérer vos émotions, est-ce que ce sera un progrès ou est-ce que ce ne sera pas au contraire un élément de la barbarie qui s'instaure ?» Et aujourd'hui, on voit comment un certain discours de développement personnel peut être récupéré pour non plus un contrôle de l'activité des gens dans l'entreprise, mais un contrôle de l'être dans l'entreprise.
Pardon, je vous coupe, mais c'est ce que j'allais vous demander. Moi, j'avais prévu un peu plus tard, mais puisque vous en parlez, parlons-en tout de suite. Aujourd'hui, la méditation est beaucoup pratiquée en entreprise, recommandée pour les cadres, recommandée par les entrepreneurs. C'est une très bonne chose. Mais on a tendance à se demander si lorsqu'on demande à un commercial de méditer pour devenir plus performant, ce n'est pas une manière aussi d'enlever d'une certaine manière l'empathie, de le rendre plus permissible aux techniques
absolument.
De vente.
Vous voyez ça peut être absolument dangereux, ne pas s'en rendre compte. Moi, ça fait 15 ans que je crie en disant attention, danger. Ça peut être tout à fait dangereux. Tout dépend. Donc la question, ce n'est pas juste est-ce qu'on médite, mais quelle méditation on fait, dans quelle finalité, et avec quelle éthique. Et je suis très content que ces questions commencent à jaillir. Mathieu Ricard s'est beaucoup engagé depuis 2 ans à voir lui-même qu'il y avait un problème. Et j'en suis content parce que c'est un vrai problème. Donc ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qui fait transmission. Et alors, à première vue, ça semblerait facile. Transmettre la méditation, c'est expliquer aux gens comment on fait pour méditer. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Pour une raison toute simple, c'est comment on fait, toutes les difficultés qu'on peut avoir, etc. Mais après, s'infiltre, sans qu'on s'en rende compte, des tas de problèmes qui font qu'on n'est plus vraiment dans la pratique de la méditation, mais on projette sur la pratique de la méditation des choses qui n'ont rien à voir avec la pratique de la méditation. L'exemple qu'on vient de citer, c'est le plus évident. On pratique la méditation, mais au fond, on est dans une perspective de contrôle. Là où la méditation, c'est apprendre à être. Moi, j'aime bien dire qu'est-ce que c'est méditer, pour ceux qui ne savent pas, en une phrase, qu'est-ce que c'est méditer, c'est apprendre à se foutre la paix. Ça, c'est ça, méditer. On apprend à se foutre la paix. On s'assoit, on ne fait rien, on court-circuite la tentation, la tentative, l'obsession, la peur de devoir tout sans arrêt réussir les choses. Donc, vous voyez, là, je veux commencer à parler de méditation, je suis obligé de parler philosophiquement de notre temps. Alors, on a l'impression que c'est un peu compliqué de devoir faire un détour par la philosophie pour pouvoir faire transmission de la méditation. Donc la question, comment on fait transmission de la méditation? Pour le faire, à un moment, on est obligé de dire, mais qu'est-ce qui fait obstacle à la transmission de la méditation? Ce qui fait obstacle, alors on a parlé là du management, mais c'est accessoire. Quel est le problème central? Le problème central, c'est l'obsession de la performance. Nous sommes tous, et moi aussi, pris par l'idée que nous devons réussir quelque chose, que nous devons être performants. Mais ce n'est pas seulement dans le boulot. On doit être performant dans notre vie de couple. On doit être performant avec nos enfants. Et donc, on a tout le temps l'idée, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? Et donc, la méditation devient un nouveau truc qu'il faudrait réussir. Or, la méditation, c'est arrêter. C'est, la méditation, c'est l'incroyable monstration que la volonté d'être toujours plus performant ne réussit pas. Ça ne marche pas. Ça nous rend fous. Ça nous ronge. Ça nous empêche d'être des êtres humains. Ça saccage la planète, ça saccage les relations avec les gens, ça ne marche pas. Et qu'il faut à un moment arrêter, ça nous rend malade, ça fait que les Occidentaux souffrent de plus en plus de dépression et de tas de maladies psychiques qui sont complètement un choc pour l'Occident. Puisque l'Occident a pensé, s'est construit sur l'idée... En améliorant le confort et le niveau matériel des gens, les gens iront de mieux en mieux. Ça a marché depuis 20 ans. On est d'année en année dans une régression. Le taux de suicide des jeunes, le taux de souffrance, de détresse, ne cesse d'augmenter dans les pays occidentaux. Donc là, il y a un problème qui vient faire complètement irruption, qui dit, là, il y a un problème, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc la méditation... a un sens et elle vient répondre à ce problème-là. Donc, si on veut faire école, si on veut faire transmission de méditation, il faut voir qu'est-ce qui fait problème. Qu'est-ce qui fait problème? C'est l'obsession de la performance. Ça, je le vois, ça, depuis au moins, je crois que ça doit faire une dizaine d'années que je vois ça, mais encore aujourd'hui, je ne cesse d'en voir de nouvelles facettes. Je ne suis pas du tout au bout de voir l'ampleur du phénomène. Et depuis quelques mois, par exemple, je me rends compte que toute présentation de la méditation qui a un léger et léger perspective qu'il y a quelque chose à réussir est dévoyée. Puisque à l'instant où je vous dis il faut méditer pour essayer d'aller mieux, pour essayer d'être plus calme, pour je ne sais pourquoi, dès que je dis ça, ça devient un outil pour être plus performant. Et donc même des phrases qui sont dans les textes canoniques de la tradition qui nous apprend à méditer, on a l'impression que c'est le même texte, donc on est fidèle, mais ce n'est pas du tout le même texte, puisqu'on ne le lit pas de la même manière, puisque nous, on lit tout à travers, par exemple, la performance. C'est un exemple. On pourrait parler aussi, si on veut essayer de transmettre la pratique de la méditation, on pourrait voir aussi que, inséparablement de cette question de la performance, vient le manque de bienveillance que nous avons envers nous-mêmes, et qui est un problème absolument central. Nous manquons de bienveillance envers nous-mêmes. C'est un phénomène, ça, c'est très important que je vous dise ça. Je ne sais pas comment il faut transmettre la méditation. Ça fait 20 ans que je travaille et que j'ai découvert des choses au fur et à mesure. Un jour, j'ai lu un entretien qui raconte cette histoire du Dalai Lama, il y a une quinzaine d'années peut-être, a rassemblé l'ensemble des enseignants de méditation en Occident, à Dharamsala. Donc, il rassemble les principaux enseignants et il leur demande quel est le problème majeur que vous avez à transmettre la méditation. Ils se réunissent et ils font des groupes de discussion pour essayer de déterminer quel est l'obstacle majeur. Et ils pensent que l'obstacle majeur, c'est justement le manque de bienveillance que les gens ont envers eux-mêmes. Ils sont trop durs. Et donc, la méditation finit par être un objet, un outil de dureté, j'y arrive pas, je dois faire ça, etc. Et ça les empêche d'entrer simplement dans la pratique. Mais ce qui est intéressant dans l'anecdote, c'est qu'ils présentent ça au Dalai Lama, et le Dalai Lama ne comprend pas ce qu'ils disent. Le traducteur traduit, et le Dalai Lama ne comprend pas. Ça n'existe pas dans sa langue, l'idée que les gens ne s'aiment pas eux-mêmes. Il a l'idée que les gens sont trop égoïstes, qu'il faut qu'ils deviennent plus altruistes, mais il n'a pas l'idée que les gens s'en veulent eux-mêmes. Et donc, il ne comprend pas. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Ça veut dire bien qu'on n'est pas exactement la même chose. Et encore une fois, je reparle de Mathieu. Je connais très bien Mathieu. Et en plus, il se trouve que par les hasards de la vie, je suis devenu son éditeur en poche. Et j'étais très content parce que Mathieu, qui était très tibétain, pendant très longtemps, il parlait juste « Soyez altruiste, ça n'a aucune importance de développer de la bienveillance pour soi-même. Qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est un truc égocentrique. » Et il raconte dans son avant-dernier livre sur le plaidoyer pour l'altruisme pourquoi il s'est trompé. avec beaucoup d'honnêteté. Et pourquoi avoir la bienveillance pour soi n'est pas une forme d'égoïsme. C'est absolument un chemin nécessaire, absolument central, qui fait défaut. Voilà, donc ça, c'est quelques éléments qui montrent que la transmission de la méditation ne peut pas se faire sans une réflexion très profonde. Donc on a la performance, on a le manque de bienveillance. Troisième problème majeur, c'est l'inscription corporelle. C'est que la méditation n'est pas un travail, entre guillemets, spirituel, intellectuel. C'est un travail qui inclut l'entièreté de notre être, et donc aussi bien notre corps que notre esprit, avec le fait qu'à l'instant je dis corps, c'est perdu puisque j'ai séparé quelque chose qui est unitaire, même si nous avons pris l'habitude de le séparer. Mais méditer, c'est toucher un sens. Je vous ai donné une première définition de la méditation tout à l'heure, apprendre à se foutre la paix. Je vous en donne une deuxième, toucher un sens de présence avec l'entièreté de son corps. Ça a l'air tout à fait évident, mais pendant longtemps, les gens ont cru que la méditation, c'était un travail de l'esprit. C'est apprendre à être présent, ou ce qu'on appelle aujourd'hui pleine conscience. Je fais une parenthèse, la traduction de mindfulness par pleine conscience est une catastrophe. Parce que vous ne pouvez pas traduire mindfulness par pleine conscience. Donc en France, on appelle la méditation pleine conscience, c'est tout à fait dommageable, parce que ce n'est pas une question de conscience, c'est une question de présence. Et c'est absolument complètement dingue que les livres de Kabat-Zinn s'appellent « Pleine conscience », que Kabat-Zinn est considéré comme l'introducteur de la pleine conscience en France, quand dans tous ses livres, il explique « La méditation, c'est mindfulness and not consciousness ». Donc moi, je veux bien qu'on m'explique comment quelqu'un qui explique tout le temps « Méditation, c'est mindfulness », donc présence, enfin, mind, c'est esprit, attention, pleine attention, et qui dit « C'est surtout pas la pleine conscience », on traduit ça par pleine conscience. Donc ça, c'est une chose qui me sidère. Qui me sidère et que je trouve tout à fait malheureux, parce que pleine conscience, on a l'impression que ce n'est pas du tout une pleine présence dans l'entièreté de notre corps. Et c'est tout simple. Si je suis conscient, on va faire un exercice. Vous m'autorisez à faire un exercice ?
Je vous écoute émerveillé, c'est pour ça que je ne vous coupe plus.
On va faire un court exercice pour que vous compreniez ce que je dis, pour pas que vous me croyiez sur parole et que vous voyez. Vous allez d'abord, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme exercice ? On va faire le premier exercice, vous allez entendre simplement ce que je dis, en étant juste attentif à ce que je dis. Vous entendez les mots, simplement de ce que j'essaye de dire. Et puis maintenant, donc, prenez le temps de juste vous entendre, simplement. Et maintenant, essayez de prendre conscience que vous êtes en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Donc soyez dans la pleine conscience de ce que je dis. Ayez conscience de ce que je dis. Et essayez de voir s'il y a une différence entre maintenant que vous ayez conscience de ce que je dis et tout à l'heure où vous étiez attentif à ce que je dis. Voilà, premier exercice. On va faire un autre exercice maintenant. Posez votre main sur votre genou et soyez juste attentif à la sensation de votre main sur votre genou. Sentez votre main qui se pose, les points de contact entre votre main et votre cuisse. C'est juste de sentir ce qu'il y a. Vraiment, c'est juste vous vous foutez la paix, il n'y a pas d'effort à faire. Vous êtes juste présent, attentif, vous êtes juste là. Vous sentez, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est lourd, les points de contact. Et maintenant, on va passer à un autre exercice. On va essayer d'avoir conscience, avoir une sorte de conscience du fait que votre main est sur votre genou. Vous avez une pleine conscience de ce qui se passe. Vous avez la conscience que votre main est posée sur votre genou. Voilà. Est-ce que vous sentez une différence entre les deux modalités, prendre conscience que votre main est sur le genou ou être attentif au fait que votre main est sur votre genou? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a vu une différence? Oui. 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 Absolument. Très, Absolument, très bien dit. Est-ce que quelqu'un d'autre... Madame. Oui, absolument. 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 C'est tout à fait clair. C'est absolument central. La première, on est attentif et donc c'est pas moi qui suis attentif à ce qui se passe, c'est la sensation qui compte. C'est ma main qui compte ou c'est ce que j'entends qui compte. Le deuxième, j'en ai conscience, c'est un redoublement. Maintenant, essayez de m'expliquer pourquoi on appelle ça pleine conscience. Là, j'espère que vous voyez, c'est pas une lubie théorique, c'est une expérience que vous pouvez faire. Là, en 2 minutes, on pourrait essayer de le montrer plus amplement. Oui, madame ?
Un abandon.
Absolument. Donc, voilà. Donc.
Mais vous savez qu'avec votre exercice, vous avez tout embrouillé mes pistes. Parce que moi, j'ai pensé jusque-là, moi qui ne suis pas méditante ni spécialiste, j'ai lu, j'ai essayé de bien comprendre, j'avais compris que le succès en Occident de la méditation vient du fait qu'on l'ait vidée de sa substance spirituelle, qu'elle soit laïque. Et quand, lorsque vous faites cet exercice avec l'amant, on a une sensation de présence comme on peut l'avoir dans les spiritualités. Au moment d'une prière, par exemple.
Oui.
Et du coup, vous avez tout embrouillé mon truc parce que je croyais qu'on était enfin débarrassé de la religion. Et en fait,
non. Il faut faire la distinction.
Il y a des ponts, en fait.
Il faut faire la distinction entre religion et spiritualité.
Oui, exactement.
Donc, moi, je dirais que cette expérience que vous décrivez de présence, que vous dites qui est présente dans les spiritualités, mais elle est présente dans tous les arts.
C'est vrai.
Elle est présente chez les enfants. Je viens de recevoir une petite vidéo ce matin de mon filleul qui récite son premier poème. Il a combien ? 3 ans et demi, il récite son premier poème. C'est absolument la même expérience. Donc, on pourrait dire que la spiritualité est un des espaces qui parle de cette expérience, mais toute poésie, toute la peinture, la musique nous parle de ça. Mais après, on pourrait aussi parler de tous les gens qui sont en rapport profond à la nature, les explorateurs, les navigateurs, ou même les gens qui font des randonnées un peu, parlent de cette expérience-là. Donc on peut dire que c'est quelque chose de très profondément humain, qu'on a juste perdu parce qu'on est devenu très très conceptuel. Et on a perdu ce rapport à cette immédiateté. Donc la méditation est venue en Occident parce qu'elle s'est libérée d'un certain rapport religieux, mais certainement pas parce qu'elle s'est libérée d'un rapport spirituel. C'est pas la même chose. Pourquoi c'est important de dire qu'elle s'est libérée d'un rapport religieux ? Le rapport religieux, c'est le rapport à une institution. Et qu'est-ce que c'est la méditation ? C'est vous avez rapport à la dimension spirituelle, vous, tout seul. Vous n'avez pas besoin d'appartenir à une institution pour que cela ait lieu, qui reconnaisse ou qui ne reconnaisse pas votre expérience. Donc voilà pourquoi je crois qu'on peut remettre les choses en ordre. Donc ce que je voudrais essayer de montrer... Peu importe sur les points de détail, par exemple la question est-ce que pleine conscience, présence, c'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est que vous voyez que la transmission de la méditation impose une réflexion très fine sur ce qui fait problème pour nous. Et donc, pour l'instant, la question de la performance, la question du rapport à la bienveillance, la question du rapport au corps, donc je vais parler de la pleine conscience pour parler du rapport au corps, parce que nous avons tendance à perdre de vue que méditer, c'est un travail de l'entièreté de notre être et qui implique un rapport au corps. Un rapport au corps, mais un rapport au corps poétique, pas un rapport au corps... Dès que je dis corps, on pense sport. Mais on oublie que le musicien est en rapport au corps. Est-ce que c'est le sportif ou le musicien qui est le plus en rapport au corps ? Ça dépend quel rapport on a avec le corps. Vous voyez, nous, on a l'impression que le sportif est plus en rapport au corps, mais il peut instrumentaliser le corps et pas avoir de rapport au corps. Tandis que la dimension poétique du corps, c'est ça qui est absolument redécouvert dans la pratique de la méditation. Ce qui fait que la personne qui m'a enseigné la méditation, le grand neuroscientifique Francisco Varela, avait écrit son livre « L'inscription corporelle de l'esprit », qui est un livre pour essayer de montrer, qui est un livre un peu difficile, mais qui est un livre très important, pour essayer de montrer ce qu'est la pratique de la méditation. Il ne disait pas essayez de vous calmer en 3 leçons. C'est l'inscription corporelle de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, l'inscription corporelle de l'esprit ? Donc ça, je crois que c'est le cadre qui peut faire qu'il y a transmission de la pratique de la méditation. Et votre question très, très juste, très importante, montre qu'on ne peut avoir rapport sans doute à la méditation que dans le rapport à l'art. Parce que si nous voulons justement, parce que nous, le langage religieux nous est pas du tout facile, pour des tas de raisons tout à fait légitimes, sans doute que c'est par le rapport à l'art qu'on peut comprendre cette dimension méditative. Et c'est pas par hasard que Christophe André, a fait son livre sur la méditation en mettant des œuvres d'art. C'est vraiment qu'il y a eu une prise de conscience que la méditation est sans doute le plus proche de ce qu'est l'art. Parce que dans l'art, il y a un rapport de présence au monde très simple, qui ne passe pas par une compréhension et qui est pourtant d'une profondeur infinie. Quand vous voyez un tableau où vous lisez, vous écoutez un poème, c'est infini et c'est d'une profondeur. Eh bien, la méditation parle de cette profondeur d'être. Et vous voyez, en retour, la méditation pourrait aider l'art à sortir d'un rapport un peu, des fois, un peu trop cérébral, abstrait ou culturel, ou esthétique, pour revenir une question centrale à l'existence humaine. Alors, j'étais un tout petit peu rapide. Quand on dit esthétique, ça veut dire qu'on a l'impression, des fois, que les œuvres d'art ne sont là que pour nous donner un sens de plaisir. Mais une œuvre d'art nous aide à vivre de manière très profonde. Avant de venir, j'étais un peu en avance, j'ai fait une petite pause et j'étais à la plateforme pour les auteurs. Et j'ai rencontré le traducteur, un des traducteurs de Rainer Maria Rilke, et je lui disais, ah, vraiment, je suis content de vous saluer, vos textes sont très importants. Et je lui dis, vous savez, moi je ne cesse de lire Rilke, et ça ne cesse pas de m'apprendre à vivre. Et il me répond, oui. C'est absolument central. Moi, je ne m'intéresse aussi qu'aux auteurs qui nous aident à vivre. Et ça, alors c'est Jean-Yves Masson, qui est professeur, je crois, maintenant à Paris 4. C'est sûr que ce n'est pas un discours qu'on a souvent. Et lui-même m'a raconté à plusieurs reprises la difficulté qu'il a, lui, comme professeur d'université, de parler de cette dimension spirituelle, éthique. Et au fond, c'est la dimension poétique même de l'œuvre d'art, vous voyez, qui n'est pas juste une question esthétique, qui est une question de nous aider à vivre. Et donc, on pourrait dire que la méditation, en route, à la fois, la poésie aide à comprendre la méditation, mais la méditation pourrait peut-être nous aider à réentendre le sens de l'art, le sens de la présence, le sens de l'être ensemble, le sens de ce que pourrait être une vraie politique. Et donc, la méditation, transmettre la méditation, c'est la désenclaver d'un simple instrument pour essayer d'aller bien, et d'en faire l'espace qui permette de nourrir l'ensemble de notre existence ensemble au monde aujourd'hui et qui nous aide à relever les grands défis que nous avons à relever aujourd'hui. Et je crois que c'est cet incroyable choc qui est au cœur du succès de la méditation aujourd'hui. Parce que tout le monde ne le formule pas forcément comme je le formule, mais tout le monde sent bien que dans la méditation, il se joue quelque chose qui va nous parler et nous redonner un peu de cette dimension humaine qui nous est enlevée parce qu'on est coupé de notre corps, on est obsédé par la performance et qu'on manque absolument de bienveillance. Pour nous, mais un monde où la bienveillance a été mutilée. On vit dans un monde, au fond, où la bienveillance est mutilée. Et donc, c'est bien ça que la méditation peut déployer dans le dialogue avec la philosophie, en s'appuyant sur comment la philosophie peut nous aider à voir qu'est-ce qui fait problème dans notre temps, et en nous aidant sur les œuvres d'art qui nous aident à comprendre que le sens de présence, il est très simple, très naturel. Et moi, je suis frappé, parce que je travaille beaucoup en ce moment sur la poésie, mon prochain livre sera sur la poésie, et je suis frappé, par exemple, que la poésie, pour la plupart des adultes, pour la plupart d'entre vous, si je vous disais quel rapport vous avez à la poésie, sans doute les gens répondent, c'est un peu trop dur pour moi, j'ai peur de ne pas réussir à les lire, c'est trop compliqué. Et vous voyez, on m'envoie la photo de mon filleul, il lit un poème, il a 3 ans et demi, il est dans une joie folle parce qu'il lit un poème. Et je parlais avec un ami qui est psychanalyste d'enfants, et il me dit que souvent, il lit des poèmes pour les enfants, dès 3-4 ans. Il leur lit un poème, et les enfants le regardent et comprennent quelque chose. Ils comprennent alors qu'ils ne comprennent pas tous les mots. C'est marrant parce que dans le petit film de mon filleul qui lit le poème que j'ai vu tout à l'heure, je voyais bien qu'il y a certains mots qui ne comprennent pas toutes les résonances, mais il comprend que la parole, elle parle et qu'il se passe quelque chose. Et l'enfant comprend et nous, on ne comprend plus. Sauf quand on est... quand c'est un enterrement ou un mariage. Dans les moments graves de l'existence, souvent, on a rapport à un poème. S'il y a quelqu'un qui se marie, souvent on lit un poème. Quand il y a un enterrement, souvent on lit un poème. Pour les grands moments, on sait qu'on ne peut plus bavarder, que là, il faut qu'on ait une parole qui ait de la force. Et bien, au fond, la méditation, c'est un peu, il y a quelque chose d'analogique à ça. C'est très difficile d'en parler parce que c'est tellement simple et pourtant on a l'impression que ce n'est pas pour nous parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, mais il y a quelque chose qu'on entend. Et donc on pourrait dire que la méditation se déploie à partir de quelque chose qu'on reconnaît, qu'on entend, mais qui ne repose pas sur l'habitude que nous avons de vouloir tout comprendre. Et que peut-être que l'essentiel de la vie, c'est d'accepter qu'il y a des choses qui ne dépendent pas d'une compréhension, mais quelque chose qu'on entend. Par exemple, on ne comprend pas pourquoi on est amoureux de telle personne. On ne comprend pas, et peut-être que pour l'essentiel, on ne peut pas comprendre. On peut juste entendre quelque chose. Cette distinction est absolument, je crois, assez éclairante dans ce qui fait possibilité d'une transmission de la pratique de la méditation de manière que ça puisse vraiment libérer, éveiller, réjouir, rendre plus vivant ceux qui y entrent.
Moi, si vous avez l'habitude de la méditation et si vous avez un peu peur de la poésie, je vous conseillerais, je parle sous votre contrôle, Christian Bobin, qui parlera... Non ? Bah, ah, bah, c'est bien, ça y est, il va me dire pourquoi il n'aime pas.
Tout sauf Christian Bobin.
Ah, bah alors expliquez-moi, parce que les gens qui méditent, s'ils lisent de la poésie, c'est surtout Christian Bobin.
Christian Bobin, non, mais je...
Alors, c'est bien, parlons-en, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, oui, justement, de lui.
Ne lisez pas Christian Bobin. Enfin non, si ça vous plaît, mais disons... Christian Bobin, non, vaut mieux lire Rilke. Voilà, il vaut mieux lire Rainer Maria Rilke. Ça, c'est un grand poète. Mais après, voilà, c'est une question... C'est un peu sentencieux et un peu brutal de dire, voilà, non. Mais disons, pour moi, Christian Bobin n'a aucun rapport à la poésie. C'est vraiment comme le Canada Dry... par rapport à l'alcool. Donc voilà, c'est mais bon, ça ne regarde que moi, mais je le dis, je vous l'ai dit, parce que c'est devenu vraiment le réflexe. Poésie, Bobin. Bobin, ça semble poétique, c'est poétique, mais la poésie, c'est pas poétique. La poésie, comme disait Paul Éluard, la poésie, c'est pas poétique. Mais je connais pas la phrase par cœur de Paul Éluard où il dit... La poésie se trouve tout aussi bien dans ce qui est beau que dans ce qui est tragique. Il faudrait que je vous lise les textes. Je suis embarrassé, ça peut sembler que dogmatique. Il faudrait que je prenne un texte de Bobin, un texte de Rilke, un texte de René Char, un texte de Goethe, et puis je vous montre ce que c'est un poème et qu'est-ce que c'est pas un poème. Ça, je fais ça des fois dans l'école occidentale. Par exemple, de temps en temps, j'étais à Lausanne, on fait des séminaires dans un musée, et on pratique et on voit les œuvres, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe dans l'expérience. Mais donc, juste, ne retenez pas ce que j'ai dit, comme Fabrice Midal n'aime pas Christian Bobin, mais entendez juste ce que je dis en disant, tiens, il y a quelqu'un qui dit que Christian Bobin, c'est peut-être pas complètement de la vraie poésie, et juste avoir un point d'interrogation et regarder par vous-même, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Mais comparer avec un texte de Rilke, comparer par exemple avec Lettre à un jeune poète, qui est un des textes les plus simples de Rainer Maria Rilke, et voyez si ça parle pareil. Et je pense que les gens peuvent... Je pense que si on lit les deux textes, je crois que c'est possible que les gens sentent. Et ça, c'est très étrange, parce qu'en travaillant avec les enfants très vite reconnaissent un grand poème d'un moins bon poème. Et on entend. Et je pense que si on entend... C'est possible de voir ça. Donc, voilà.
Donc, voilà. Vous avez une question ?
Attendez. J'ai une petite question. Au niveau de la méditation. Ah, pardon. J'ai une petite question par rapport à la méditation. Est-ce que je peux ?
Oui.
C'est le moment. Est-ce que peut-être pour les enfants, c'est plus facile à méditer parce qu'ils analysent moins que l'être humain, en fait, que l'adulte ? Je dirais la méditation, je la verrais d'une manière de lâcher prise. Il y a plusieurs manières, chacun son système. C'est en fait d'arrêter d'analyser. Oui. C'est en fait le début de la petite méditation qui nous aide. En fait.
Oui, vous avez raison. Dans la méditation, on n'est pas dans un rapport d'analyse, on est dans un rapport d'attention et de présence à. Moi, je pense que pourquoi c'est plus facile pour les enfants, c'est que les enfants sont plus entièrement incorporés, que leur rapport à leur corps est beaucoup plus simple. Du reste, c'est tout à fait intéressant. Pour ceux qui s'intéressent à la danse moderne, Merz Cunningham raconte qu'un jour, il voit par la fenêtre des enfants jouer dans la cour et qu'il a trouvé que c'était une sorte de pureté d'acte, de geste, qu'il a beaucoup nourri dans la révolution de la danse moderne qu'il a instituée, Merz Cunningham. Et je crois que c'est cette expérience-là. Quand on voit les enfants pratiquer, ils s'assoient, ils y sont entièrement. Et nous, c'est bizarre, c'est beaucoup plus compliqué d'y être entièrement. Notre corps s'est un peu séparé. Nous avons du mal à l'habiter. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que c'est un peu plus difficile.
Pour la deuxième part de notre rencontre, je pensais justement profiter de la présence de Fabrice Midal pour demander quelques petits conseils concrets de comment pratiquer, quelques points de repère de comment pratiquer la méditation, de comment dépasser ou accepter les moments de difficulté. Mais avant, est-ce que vous avez, certains d'entre vous ont déjà des questions par rapport à ce que nous avons déjà évoqué? Allez-y.
Par rapport à la question de l'amour de soi, j'ai aussi été frappé par ce passage et je m'étais demandé s'il n'y avait pas un problème de traduction, parce qu'en français, avoir l'estime de soi, l'amour propre, plus précisément, je crois que c'était le mot utilisé, l'amour propre. Amour propre et amour de soi, c'est deux choses qui sont différentes pour moi en français.
Oui, c'est Rousseau qui fait la distinction entre amour propre et amour de soi, en montrant qu'il y en a un qui est égoïste et l'autre qui est un sens de présence et d'ouverture. Et estime de soi, c'est un autre problème. Estime de soi, c'est un mot qui apparaît dans le discours du développement personnel. Moi, je suis un peu gêné du discours sur l'estime de soi. Je préfère parler de bienveillance aimante. Et la bienveillance aimante doit être nous inclure comme inclure les autres. Mais je me sens moins à l'aise avec estime de soi. Mais c'est des questions très compliquées que vous posez. Et j'ai bien conscience là de ne pas pouvoir répondre complètement. Parce que comment on nomme cette dimension? Comment on nomme ça? Bienveillance. Vous voyez, Mathieu Ricard, il appelle ça altruisme. Même s'il parle de la bienveillance de soi, on a beaucoup de mal à parler de quelle est cette dimension où de bienveillance, d'amour, de tendresse, de chaleur, de vulnérabilité, d'altruisme, de souci de l'autre, mais d'apaisement chaleureux, de rencontre, de lien réel. Comment on fait pour nommer cette dimension? C'est extrêmement, extrêmement difficile. Je n'ai pas la réponse. Je suis juste compassion. Je suis juste frappé que ça ne marche pas. Aucun mot ne marche. C'est-à-dire, je pourrais expliquer pourquoi chaque mot ne marche pas. Et je suis très, très embêté. C'est une vraie difficulté. Compassion, tout ça, ça forme des mots très grands. On a l'impression que c'est un truc très lourd, très grave. Alors qu'on parle de quelque chose de très simple. C'est comment on a un rapport plus doux, plus vivant, moins agressif, moins violent, moins de haine. Et vous voyez, c'est très compliqué de réussir à nommer cette dimension.
Mais si je pense à mon enfance, on m'a en tout cas pas appris l'amour de moi. On dit tout de suite, absolument. Mais enfin, pour qui tu te prends?
Absolument.
Un peu de modestie, enfin, on nous apprend tout le contraire.
Absolument, et ça, nous en payons très fortement le prix. Ça, c'est absolument clair. Comment on peut apprendre à retrouver un rapport et c'est très frappant parce que c'est le contraire de ce qu'on croit. C'est-à-dire, les gens qui sont très arrogants, très orgueilleux et écrasant, c'est pas du tout des gens qui s'aiment. C'est des gens qui s'aiment pas et qui ont toujours besoin d'en rajouter pour que l'autre leur confirme que ce qu'ils sont, c'est bien. Quand quelqu'un est en paix avec lui-même et s'aime, il se fout la paix, il fout la paix aux autres. Donc on voit bien que c'est exactement le contraire de ce qu'on raconte. Mais quand on parle de bienveillance pour soi, d'apprendre à faire la paix avec soi, on a toute l'impression que c'est un truc un peu égoïste. Mais c'est exactement le contraire. Les gens égoïstes sont des gens qui sont dans une tension, dans une insatisfaction chronique envers eux-mêmes. Et donc, sans arrêt, en train d'utiliser le monde pour qu'il leur donne ce qu'ils n'arrivent pas à se donner eux-mêmes. Et c'est une douleur infinie, puisque rien ne leur donnera jamais ce qu'ils veulent obtenir. Ça ne marche pas. C'est le ressort de tous les romans. Les gens cherchent la reconnaissance, et ils se battent pour avoir la reconnaissance. Quand ils l'ont, ça ne les comble pas. Donc ils en veulent encore plus, encore plus, encore plus. Et jamais vient la moindre satisfaction. Et la méditation, c'est comment apprendre à entrer dans un espace de satisfaction réelle. Ce que je voudrais, moi, ajouter, c'est si on parle de comment transmettre la méditation et que ça impose une réflexion sur ce qui fait défaut dans notre temps, le rapport à la philosophie, le rapport à la poésie, je crois qu'il faut aussi penser qu'est-ce que ça veut dire que transmettre la pratique. Transmettre la pratique, c'est pas seulement une fois qu'on a fait ça, on pourrait dire que ça y est, là maintenant, on a fait une grande partie du travail, on a levé les grandes idées reçues, on a essayé d'établir un espace dans lequel la méditation peut nous s'adresser à nous pour de bon plutôt qu'être quelque chose d'extérieur, et c'est bon, on peut commencer maintenant à rentrer dans la pratique. À mon avis, il y a quelque chose qui va faire défaut, c'est quel est l'espace dans l'espace qui s'ouvre de la pratique de la méditation. Alors moi qui enseigne la pratique de la méditation, mon travail principal c'est de la transmettre, de faire des séminaires, je me suis rendu compte que si je transmettais la méditation seulement, ça ne marchait pas, ça ne suffisait pas, parce que ça devient quelque chose de trop interne, de trop intérieur. Il faut créer un espace qui montre le rayonnement de la méditation. Et que la méditation a à voir avec le fait d'une reconnaissance, on pourrait dire, de la beauté du monde, d'entrer dans un espace qui est plus vivant, plus habité, ce que j'aime bien des fois appeler dans mon langage, entrer dans ce qui fait poème. Et je crois que ceux qui ont pratiqué et qui ont fait des longues sessions de pratique de méditation, ce qu'ils voient, c'est quand ils sortent de la pratique, ils ne vivent plus exactement dans le même monde. Ils vivent dans un monde qui est plus poétique, plus entier, plus unitaire, plus harmonieux, où il y a plus de place. Et c'est très important parce que ça fait séparer l'idée entre intérieur et extérieur. On a souvent l'impression que la méditation, c'est qu'un travail intérieur. On pourrait dire non, méditer, c'est désobstruer le rapport au monde. Et donc, en méditant, on désobstrue le rapport au monde, on n'est plus présent au monde. Wittgenstein a cette phrase très saisissante. Le monde de l'homme heureux n'est pas le même que le monde de l'homme malheureux. Et quel est le monde de l'homme qui médite? Et donc, quand je me suis dit qu'il faut enseigner la méditation, il ne s'agissait pas uniquement de lever cette question par rapport à la philosophie, à la poésie, à nos mécompréhensions, etc. Et par exemple, répondre à ce manque d'amour que nous avons pour nous-mêmes qui, s'il n'est pas adressé, empêche de comprendre la pratique, mais il fallait voir qu'est-ce qu'on peut faire pour établir un monde poétique dans lequel l'espace de la méditation est montré et fait que ça ne reste pas un truc interne, on le voit. Donc, quand j'ai commencé à enseigner la méditation, j'ai fait beaucoup attention aux détails, l'espace dans lequel on est. Alors, c'est très étonnant parce que les gens sont au début très surpris, presque choqués. Mais comment vous vous intéressez aux choses matérielles? Mais on croyait qu'on allait méditer, on allait dans le spirituel. Et on est très dans une dichotomie qui est contraire à l'esprit de la méditation entre la question matérielle et la question spirituelle. En fait, on pourrait dire que cette dichotomie, elle est fausse. C'est pour ça que le mot spirituel n'est peut-être pas du tout un bon mot pour parler de l'expérience de la méditation. Parce que c'est une expérience complètement matérielle aussi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, comment la méditation doit déboucher sur un poème? Donc c'est-à-dire comment on s'habille, comment on parle, qu'est-ce qu'on mange, comment est notre maison? Est-ce que c'est un espace dans lequel se déploie un espace de présence et de bienveillance? Ou au contraire, quand on rentre chez soi, on est asphyxié? Et tout ça, on est très perdu par rapport à tout ça. Ça semble complètement anecdotique. Ça semble matérialiste, ou ça semble... Ou on pense que je vais parler d'un truc esthétique. Non, je parle de la qualité même de présence au monde qui devrait se déployer. Et si on médite, il devrait y avoir ce déploiement de présence. Et donc, méditer, c'est faire poème. Et donc, la transmission de la méditation, pour essayer, je voulais vraiment aller au bout de ce fil sur la méditation, comme ce qui peut, comment transmettre la méditation. Et au fond, pourquoi j'ai fait l'école occidentale de méditation, pour pouvoir faire tout ça, c'est-à-dire faire ce travail par rapport aux problèmes de notre temps, mais aussi faire que quand les gens pratiquent, ils voient quelque chose de l'ordre du poème qu'est l'expérience de la pratique de la méditation. Et ça, c'est tout à fait... c'est un vrai soulagement de voir que ce n'est pas qu'une question mentale. C'est une... Mais ce que je dis est très simple. Si vous lisez un poème pour de bon, ou un auteur, au bout d'un moment, vous ne voyez plus le monde de la même manière. Avec la peinture, c'est très frappant. Si on va voir une exposition de peinture, vous sortez et vous ne voyez plus le monde pareil. C'est comme si le peintre vous avait prêté ses yeux. C'est ce que dit Proust. L'artiste est là pour vous prêter ses yeux. Il vous prête ses yeux, vous ne voyez plus le monde de la même manière. Il y a quelque chose qui est d'un seul coup complètement plus ouvert. Et chaque fois d'une tonalité différente. Et ça, je crois que c'est tout à fait central. Et même décisif dans l'expérience poétique ou dans l'expérience méditative.
Allez-y, madame. Est-ce que je vais profiter de la pause micro ? Je n'ai pas calculé. Ça fait combien d'années que vous méditez ?
Je crois que ça fait 28 ans.
Et quel est votre aujourd'hui votre plus gros... Qu'est-ce qui reste encore comme problème quand on médite depuis 28 ans ?
Tout. Ça ne change rien.
C'est parce que moi, après cette conférence, je vais direct méditer, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais il faut que je sache déjà. Voilà.
C'était ma question, justement.
C'est-à-dire, quelle est votre question ?
Je lis dans vos pensées, voilà, c'était la question de...
Non, j'aimerais bien, parce que j'ai beaucoup aimé votre livre, enfin, le Frappe le ciel,
écoute etc. Le bruit.
Où vous décrivez votre parcours, et moi qui pratique la méditation depuis plusieurs années, quand même, ça m'a me soulagé, déculpabilisé. Enfin, quelqu'un qui disait que ce n'est pas facile, que... Voilà. Et j'aurais aimé que vous parliez un peu de ces difficultés. Vous l'avez dit, à un moment donné, on voit le monde, oui, on laisse entrer, mais aussi entrer les difficultés. C'est pas... Absolument. Quand on parle de méditation, on dit « oui, tout va aller mieux, n'est-ce pas ? Nous allons aller sur un petit nuage, c'est trop joli, etc. » C'est pas vrai.
Non, vous avez raison. Quel est votre prénom ?
France.
France, c'est très important. Ça, c'est très important. Là, c'est bien, on a parlé de ce qui fait transmission, et là, on peut parler de ce qui fait chemin. Votre question, c'est qu'est-ce qui fait chemin ? Et après avoir parlé de ce qui fait transmission, c'est un rêve faux et qui me désole l'idée qu'on pourrait trouver une manière d'être dans un état de félicité, quoi qu'il arrive. Ça me semble vraiment...
Mais c'est ce qui est véhiculé.
C'est ce qui est véhiculé, et je trouve que c'est absolument égarant. C'est faux. Je vais montrer que c'est faux. C'est égarant, et au fond, c'est culpabilisateur. Et ce que vous dites, c'est que vous lisez, disons, ma manière de parler de ça... Et vous êtes soulagé qu'on arrête de vous dire... Alors c'est tout à fait paradoxal. Le discours qui dit « moi je vais vous expliquer comment être heureux facilement et qu'il n'y a plus aucune difficulté », c'est un discours qui rassure beaucoup les gens et qui en réalité ne les aide absolument pas et ne peut pas les aider. Alors d'abord c'est faux, parce que vous regardez, je ne sais pas, on pourrait regarder du côté des religions, du côté des sagesses ou du côté de la poésie. Du côté des religions, le Christ... Il n'est pas devenu riche en vivant dans un palais entouré de jolies femmes à la fin de sa vie. Et vous lisez les évangiles, il dit des paroles qui sont très provocatrices. Il parle d'un amour très provocateur. Je ne suis pas là venu apporter la paix, mais le glaive. Donc c'est une parole qui est tout sauf cette parole faussement consolatrice dont on parle. Il parle d'une manière d'habiter la douleur. Je ne suis pas chrétien, mais c'est quand même un exemple fort. On se tourne du côté de la poésie. Évidemment, on pourrait parler de Rilke, qui est un des plus grands poètes de l'histoire de l'Occident. Rilke ne cesse de méditer la figure d'Orphée qui, à la fois, qui par amour traverse les enfers, et sans doute tout l'Occident a pensé la poésie comme la capacité qu'a le poète par amour de traverser l'enfer. C'est comme ça que Dante commence la Divine Comédie, toute la poésie essaye de nous faire habiter les deux mondes, le monde de la vie et le monde de la mort, le monde de la douleur et le monde du bonheur. Et qu'un rapport au bonheur qui est un rapport qui nie l'expérience de la douleur n'est pas un vrai bonheur. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument central qu'on trouve Après, on pourrait parler en philosophe, en philosophie. Socrate est un exemple aussi d'un incroyable courage. Il n'essaye pas du tout de vivre dans une vie de satisfaction narcissique, mais il affronte les difficultés. Donc, je crois que ce dont nous parle la sagesse, au sens le plus universel du terme, la sagesse nous invite à avoir un rapport ouvert à la douleur comme à la joie, qu'il y a un rapport, plus ample à l'entièreté de ce qui est. Et donc, je crois que ce qui peut faire chemin de la méditation, c'est justement nous apprendre à entrer en rapport avec tous les éléments de la vie. Et les éléments de la vie, c'est bien sûr, il y a des moments où on est triste, il y a des moments où on est joyeux, il y a des moments où on est malheureux. Et la méditation, ce n'est pas faire qu'on n'ait plus aucun moment où on est malheureux, c'est faire qu'on a un rapport humain et vivant à toutes ces difficultés. Et ce serait très... Je dis toujours à quel point ce serait étrange d'imaginer quelqu'un qui serait insensible. Nous avons beaucoup, nous, l'idée comme modèle, le modèle un peu stoïcien, que je n'aime pas trop, qui est l'idée d'une sorte d'insensibilité profonde. Que le sage, c'est celui qui ne souffre pas quoi qu'il arrive. Mais là, c'est une idée romaine. C'est une idée du stoïcisme romain. Je ne suis pas sûr que ce stoïcisme romain soit l'accomplissement de la sagesse. Et je crois que c'est beaucoup plus sain d'essayer de montrer que méditer, c'est épouser ce qu'on est, épouser l'entièreté de la vie, prendre le risque d'être libre, entrer dans la beauté, célébrer la vie. Et la vie, pour un être humain, est faite d'incessants renouvellements. On n'est jamais fixé quelque part. Ce qui est là va se renouveler, se ressourcer, et donc on ne peut jamais s'arrêter quelque part. Et ça, je crois que la méditation peut nous aider à le reconnaître et à arrêter de tricher. Donc on pourrait dire méditer nous apprend à arrêter de tricher, à être plus authentique, à faire moins semblant, mais nullement d'être préservé de la vie. Et là, moi qui ai beaucoup lu la philosophie, je suis très frappé par toutes les pages de Nietzsche qui dénoncent cette idée dont beaucoup de pensées veulent nous préserver de la vie. Mais ce n'est pas en se préservant de la vie qu'on est vivant. Et comment on fait pour laisser la vie être vivante? Et donc, je crois que la méditation, c'est ça comme chemin, et je réponds aussi à votre question, la méditation ne va pas faire que tout s'arrange dans votre vie, va faire que votre vie est plus vivante. C'est tout à fait différent. Ça vous donne une plus grande assise, une plus grande force, une plus grande ampleur de vue. Mais certainement pas ce côté édulcoré que nous avons. Et on le voit bien, parce que quand on pense aux grandes figures de sages, j'ai parlé du Christ, mais on peut parler des grandes figures de sages qu'on connaît, comme Mandela, par exemple. Quand vous lisez la vie de Mandela, Mandela n'était pas du tout quelqu'un qui a vécu à l'abri de toute difficulté. Il raconte dans tous les textes qu'il écrit les grandes difficultés qu'il a traversées. Et c'est parce qu'il a traversé ces difficultés qu'il est devenu l'être humain qu'il est devenu. Pas parce qu'il a trouvé une manière de ne plus vivre aucune épreuve. Et donc ça, je crois que c'est votre question est très importante. Il y a un côté... je crois qu'on a à gagner à être très concret et réaliste sur la pratique de la méditation plutôt que de fournir ces fausses promesses qui, au fond, ne font que renforcer cette obsession de performance qui nous détruit et qui détruit le monde.
Entrer dans une humanitude.
Oui, absolument. Entrer dans dans la fragilité qu'est l'existence humaine. Et l'existence humaine a une fragilité qu'il nous faut apprendre à assumer. Et cette fragilité reconnue est le sens véritable de la force. Force ne va plus ici. C'est un mot romain, comme dirait Simone Veil.
Je peux me permettre?
Oui. Allez-y.
J'ai bien compris, enfin, tout ce qui est philosophique, vous avez beaucoup étudié, vous êtes beaucoup là-dedans. Vous m'entendez?
Absolument.
Je parle déjà très fort, excusez. En fait, vous êtes dans la philosophie et tout ça, mais je crois que dans la méditation, moi, personnellement, je pense que parfois, ça peut aider. En tout cas pour débuter, avec des petites phrases ou des petites choses très réalistes, pas trop, je ne dis pas idéaliste ou philosophique, mais tout dépend dans quel état on n'est pas tous égaux.
Je n'ai pas compris votre question.
Au niveau psychologique, on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous le même caractère, on n'est pas tous dans les mêmes situations. Alors au niveau de méditation, je pense que c'est important des fois.
Quelle est votre question ?
Ma question est que dans la méditation, le danger, c'est de rentrer trop dans une méditation pas très réaliste, dans la plupart des cas.
Oui.
Trop dans la philosophie ou trop dans l'idéal. Et c'est là qu'on peut se perdre.
Oui, si on peut juste corriger ce que vous dites, la méditation, si elle est trop idéaliste, et donc elle participe de ce que j'appelle... il faudrait réussir à faire ça, et donc on se torture immédiatement, mais il faudrait juste corriger, pas philosophique, parce que la philosophie véritable n'a rien à voir avec aucune forme d'idéalisme. C'est une manière très concrète de travailler avec la terre même du temps. Merci. Il n'y a pas moins intellectuel qu'un philosophe.
C'est ton point de vue. Chacun son point de vue.
Non, ce n'est pas un point de vue. C'est très très important de voir ça. Socrate, qui va sur la place publique et qui meurt pour libérer les gens, n'a rien d'un intellectuel, il s'est même opposé à eux. Et toute l'histoire de la philosophie, c'est comme ça. Donc c'est très très important. Ce n'est pas parce que soi-même, on ne lit pas de la philosophie, qu'il faut... C'est important de reconnaître même des choses qui nous dépassent. Je pense que ça, c'est... Oui, mais je pense que c'est très important d'entendre que la philosophie... Ce n'est pas un point de vue, que la philosophie n'a rien d'intellectuel, que Socrate le montre de manière... je veux dire, la vie de Socrate est... Là, je suis en train de lire la vie de Wittgenstein, qui est un autre des plus grands philosophes du XXe siècle. C'est tout. Enfin, je veux dire, sa vie est absolument incroyable. Il est l'héritier d'une des plus grandes familles viennoises. Ses parents sont extrêmement riches. Il donne toute sa fortune. Il va travailler avec des enfants, devenir instituteur. Et toute sa vie est un engagement d'une héroïque pour développer une forme d'éthique. Et je crois que c'est pas un point de vue. Il y a quelque chose de très violent de considérer la philosophie comme intellectuelle quand on voit les gens qui sont des vrais philosophes et le prix qu'ils ont payé. Wittgenstein, c'est très très impressionnant. Et moi-même, je ne peux pas lire beaucoup de livres de Wittgenstein. C'est trop dur pour moi. Mais ce n'est pas parce que c'est trop dur que c'est intellectuel, vous comprenez ça. C'est très important. C'est très important de réussir à entendre ça. Comme c'est très important d'entendre que ce qu'on ne comprend pas n'est pas forcément mental et intellectuel. Mais quand je parle avec mon plombier qui m'explique comment il doit faire les choses, je ne comprends rien. Ce n'est pas pour autant que c'est intellectuel. C'est très important. Quand j'avais 17 ans, il y avait un camarade de classe qui était complètement passionné par Lévi-Strauss. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et puis, il a réussi à écrire à Lévi-Strauss en lui demandant « Est-ce que vous pouvez nous recevoir ?» Et donc, Lévi-Strauss l'a reçu. Il nous a reçu. Alors, il m'a dit « Est-ce que tu veux venir ?» Moi, j'étais très content de rencontrer Lévi-Strauss. Mais manque de peau, ce copain, il était vraiment complètement idiot. Il commence à lui dire « Mais ce que vous faites, c'est quand même très dur à lire. » Est-ce que ce n'est pas un peu quand même trop intellectuel ? Et Lévi-Strauss a dit un peu ce que je viens de vous dire. Il dit, mais vous parlez avec un charpentier, est-ce que vous allez comprendre ce qu'il dit ? Non. Donc on a besoin, nous, de travailler, mais il ne faut pas penser que c'est intellectuel. Et c'était très émouvant. Lévi-Strauss est un homme très, très émouvant. Et j'ai retenu la leçon. Donc, si je peux vous la donner à votre tour, je serais ravi de vous transmettre le flambeau que m'a donné Lévi-Strauss quand j'avais 17 ans.
Et un conseil pour ceux qui ont eu un mauvais prof de philo, un conseil de livre pour entrer dans la philosophie.
Ah oui.
Parce que là, j'ose plus donner mes idées de vulgarisation.
Si, allez-y.
Oh, j'aurais dit, je ne sais pas, le banquier de Platon.
Ah ben j'aurais été.
J'avais peur.
Je ne peux pas mieux dire parce que vous avez raison. Au fond, j'allais de la même manière que j'irais lisez un vrai poète. J'aurais envie de dire lisez un vrai livre de philosophie. Et le plus beau livre de philosophie, c'est le Banquet de Platon. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Si quelqu'un veut commencer la philo, lisez le Banquet de Platon ou le Phèdre de Platon. C'est deux livres qui sont tellement palpitants, une telle aventure à toutes les pages, que je crois que quelqu'un peut sentir la dimension philosophique. Et là, il n'y a pas mieux Moi, voilà, c'est ça. Madame a été vexée, du coup, elle est sortie. Mais je pense que c'est... Moi, ma conviction, c'est vraiment très important. C'est, je crois que tout le monde est capable de lire Platon. Tout le monde est capable de lire Rilke. Il n'y a aucune raison de dire que c'est un truc élitiste et que les gens ne peuvent pas le faire. J'enseigne depuis 20 ans. J'ai enseigné à des publics, des gens qui n'avaient jamais ouvert de livre, et je leur ai fait lire des textes de Platon, et ils ont lu les textes de Platon. Moi, je crois qu'on ne peut pas être à ma place, parler, si on n'a pas la conviction profonde que tout être humain est capable du meilleur. Et penser que le meilleur, non, et qu'il faudrait... c'est pas juste. C'est pas juste et c'est pas digne. Et donc, je crois, moi, que vous avez vraiment raison. C'est très important. C'est ça que j'étais critique sur Bobin, parce qu'au fond, je commençais par lire un... Par lire Baudelaire ou Rimbaud, ou j'ai dit Rilke, j'ai bien fait parce que je suis en Suisse. Mais non, c'est vrai, il faut commencer à lire des choses qui sont là. Rilke, il écrit en français à la fin de sa vie, c'est un poète allemand, il écrit en français en Suisse, par amour de la Suisse à la fin de sa vie. Voilà, c'est très bien de commencer là, comme c'est très bien de commencer par Platon. C'est ça. Et moi, si j'enseigne la méditation, c'est pour que chacun sente. Qu'il est à la hauteur du plus grand. Vous voyez, c'est très important.
Est-ce que je vais passer, parce que le temps de notre rencontre est déjà bien avancé, quasiment fini d'ailleurs, et parce que j'aimerais quand même qu'on finisse sur un petit exercice pour ceux qui, comme moi, n'ont jamais pratiqué, ou même pour ceux qui ont plus de pratique. Il y avait une question déjà tout à l'heure depuis un moment. Allez-y.
Oui, je voulais... Vous avez une question. Qui d'autre avait une question? Vous, monsieur? Et après, je vous ferai méditer 5 minutes.
Je passe. Oui, je voulais reprendre la phrase « prendre le risque d'être libre » parce que c'est aussi une phrase que la psychanalyse propose, « prendre le risque d'être libre ». Et je voulais quand même, alors, je ne sais pas si en quelques minutes, avoir votre opinion par rapport à la complémentarité ou pas entre la méditation et la psychanalyse.
Moi, j'ai beaucoup de... Comment on pourrait dire? Oui, il y a beaucoup de complémentarité. Dans le travail thérapeutique, au fond, quel qu'il soit, en tant qu'il y a une vraie rencontre et qu'il y a une vraie exploration dans le moment présent de ce qui a lieu. Et donc ça, je crois que ça, c'est absolument très aidant. Et que c'est très... J'ai parlé du rapport à la philosophie et à la poésie. On aurait pu parler du rapport à la dimension thérapeutique. Je serais moins sûr sur la dimension psychologique, mais après la psychanalyse, encore autre chose. Mais dans la dimension thérapeutique, il se joue quelque chose entre deux personnes qui aident à entrer en rapport à la présence. Et un bon thérapeute et la psychanalyse est très sensible à pouvoir entendre la présence. Donc ça, c'est tout à fait central. Et un autre point... J'ai parlé de la poésie comme écoute de la parole. La psychanalyse nous apprend une certaine écoute de la parole. Et aujourd'hui, la psychanalyse... qui écoute quelqu'un qui parle dans un temps où on n'écoute plus les gens qui parlent, on n'écoute plus une parole qui parle, une personne qui parle, on n'écoute plus une parole dite par quelqu'un. On écoute, c'est ce que j'appelle beaucoup dans mon livre « Comment la philosophie peut nous sauver », le règne des experts. C'est quelqu'un qui parle au nom de l'universel à l'universel. Vous allumez la radio, vous allumez la télé, partout, il y a quelqu'un qui parle au nom de l'universel à l'universel. Et qu'est-ce que fait un psychanalyste? Il écoute quelqu'un qui parle. C'est très, très, c'est très impressionnant aujourd'hui. Si on entendait, peut-être que la haine que suscite la psychanalyse aujourd'hui a à voir avec la haine que notre temps a aujourd'hui de fait qu'on puisse écouter une parole. Alors après, je ne rentre pas dans le détail des choses qui me plaisent ou moins dans la psychanalyse, mais d'abord c'est ça, je crois, le phénomène qu'il faut voir. Et étrangement, parce qu'on pourrait penser que la méditation c'est arrêter de parler, mais cet arrêt de la parole dans la méditation est une manière d'entendre. Qu'il y ait une parole qui soit dite. Et donc, c'est ça que je parle de poème. Et plus, disons, j'avance dans le travail. J'espère que vous voyez que je n'ai pas les réponses. Je tâtonne dans ce travail pour essayer de voir qu'est-ce que pourrait être une transmission de la méditation. Plus j'avance, plus je crois que cette question de la parole est absolument centrale. Et que méditer, c'est... Du reste, dans l'immédiation, il y a une médiation guidée, il y a une parole qui est dite. Qu'est-ce qu'elle est, cette parole? Qui c'est qui parle? Et qui parle à qui? Voilà, ça, c'est des questions que je pense que la psychanalyse peut beaucoup, beaucoup nous aider.
Pardon, je passe à la dernière
Merci
question.
Merci beaucoup, je m'appelle Bernard. J'aimerais vous remercier d'avoir fait un lien entre la méditation et la poésie et de donner aussi comme présence à nous que vous avez une école. Parce que mon petit-fils a 3 ans, quand je lui lisais quelques poèmes, les comprenait ou saisissait ce qui se passait entre lui et moi. Et maintenant qu'il est à l'école et à 6 ans, et qu'il doit apprendre une poésie, il est dans un rapport avec moi comme quoi c'est difficile. Et je pose la question, comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'à l'école, lorsqu'on entre dans l'apprentissage de la poésie, ce ne soit pas quelque chose de trop difficile? Je ne sais pas si vous comprenez, je veux dire...
Oui, mais je dirais là, ça dépend vraiment des enseignants.
Je sais bien, mais quand même, moi j'ai le souvenir aussi que la poésie, c'était un truc qu'il fallait apprendre par cœur... Enfin, peut-être que c'est pas général. Je comprends très bien que vous dites que ça dépend du prof, mais quand même, j'étais très surpris que mon petit-fils me dise « Mais c'est difficile d'apprendre une poésie. » Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Comment est-ce qu'on pourrait faire ?
C'est une bonne question, mais peut-être, je dirais peut-être, il faut en passer par là. Ouais. Peut-être il faut en passer par le fait que ce soit difficile pour retrouver quelque chose... Moi, j'ai appris quand j'étais en classe de première, je ne sais pas à quoi ça correspond en Suisse, mais dans le lycée français, quand j'étais en première, j'ai appris à reconnaître un tétramètre isochrome anapestique dans un verre de racine. Je ne sais plus trop ce que c'est. Et pendant longtemps, je trouvais ça ridicule. Maintenant, je me dis, ce n'est pas si grave de savoir ce que c'est un tétramètre isochrome anapestique. Il ne faut juste pas être dupe que c'est un moyen de montrer quelque chose, mais ce qui importe, c'est l'expérience première. Et je crois que bien sûr, moi je trouve que c'est bien qu'on apprenne aux enfants par cœur de la poésie, parce qu'il y a quelque chose de très important de connaître par cœur, même si c'est difficile, et que c'est tout le paradoxe de ce que j'essaye de dire, c'est à la fois, il y a quelque chose de la vie qui est très simple, mais il ne faudrait pas croire que parce que c'est très simple, que ça ne nécessite pas un long travail. Ouais. C'est ça que la dame n'a pas aimé que je dise, au fond. Ouais. Elle avait entendu comme c'est simple, foutons à la poubelle tous les gens qui écrivent des livres un peu compliqués, la philosophie, la littérature. Et ce n'est pas ça que je veux essayer de dire, voyez. Et c'est pour ça que je disais, je vous invite à, par exemple, je suis ravi qu'on peut vous inviter à lire Platon, mais si vous n'avez pas envie, mais c'est ça. Il y a quelque chose d'une difficulté qui sera vue d'un autre point de vue, du point de vue de la méditation. Et donc, peut-être à votre petit-fils, il faut lui montrer que c'est dur d'apprendre un poème par cœur, mais qu'il va retrouver, quand il saura par cœur, une simplicité, une joie tout à fait simple, qu'il y a un parcours qui est difficile, mais on gagne. Et à ce moment-là, quand ça devient vraiment simple, c'est vraiment juste. Okay. Et parce qu'au fond, vous savez, la méditation, c'est simple, mais c'est difficile. Mmh. Et toute personne qui travaille pour de bon sait qu'être simple, c'est difficile.
Ça, je suis d'accord. Ok, merci.
Donc on va peut-être
voilà
faire juste
une merveilleuse conclusion, je trouve, de ce que c'est que la méditation. Oui. C'est difficile, être simple, c'est difficile. Parce qu'après la méditation, on va tous, peut-être ou pas, être dans un état un peu mollasson, ou endormi,
non,
ou éveillé.
Non.
Je voulais profiter, à moi en tout cas, je ne sais pas ce qui m'attend, donc je voulais profiter pour vous remercier pour ce merveilleux moment. Je vous rappelle à tous, parce que vous les retrouverez encore en sortant, je ne sais pas si vous serez encore, peut-être pas, il me semble que vous avez un train, vous ne dédicacerez plus.
Je dédicace en sortant, je serai la dédicace.
Ah voilà, donc comment la philosophie peut nous sauver, c'est aussi un chemin d'accès vers la philosophie. Au fond, Fabrice Midal, le dernier livre, et puis Frappe le ciel, écoute le bruit que j'ai égaré ici, qui est un très bon chemin d'accès à la méditation. Moi, j'ai trouvé en tout cas. Merci infiniment à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés aussi attentivement. Et puis maintenant, je me tais.
Et donc, on va pratiquer, et juste 5 minutes, hein, vous inquiétez pas, on va juste faire l'expérience pendant quelques minutes, et vous allez voir, non, méditer, c'est pas du tout s'endormir, c'est juste être humain. Donc, au fond, si vous voulez, vous pouvez vous redresser, mais sinon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Des fois, c'est pas mal d'être un peu droit, on est un peu plus alerte. Et donc, vous pouvez, vous qui êtes sur une chaise, vous pouvez mettre vos pieds sur le sol, vous avancez un peu. Pour nous, c'est un peu plus compliqué, nous, parce que notre chaise est un peu basse, mais pour vous... Et donc, si je vous montre à vous, je ne vous montre pas à vous. Donc, vous, D'abord, je montre à tout le monde, après je vous montre pour vous. Mais bah, pour vous, croisez les gens parce que nos chaises sont plus basses et vous serez mieux. Et comme ça, vous serez naturellement droit. Mais pour vous, mettez juste, vous appuyez pas sur le dossier, vous posez vos pieds sur le sol. Mais si vous compliquez pas la vie, sinon vous pouvez rester adossé. Mais quand on est droit, on est un peu plus alerte. Vous savez, c'est comme quand on prend sa douche, l'eau est en haut, on commence à chanter, on est content, on est alerte. Et quand on est affalé dans son canapé, eh ben, on est un peu moins alerte. Donc méditer, c'est aussi simple que ça. Et surtout, il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire. Vous êtes là, vous n'avez même pas besoin d'écouter ma voix. De toute manière, il y a des capacités en vous qui vont l'entendre et ça suffit. Vous êtes juste là, vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses, vous êtes droit. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est juste que ça vous aide à être présent à votre corps. Et vous n'avez absolument rien à faire. C'est complètement déconcertant. Vous n'avez rien à réussir. Vous pouvez juste vous autoriser pendant quelques minutes à juste être exactement tel que vous êtes là maintenant. Pas besoin que ce soit bien, confortable. Ça n'a aucune importance. Si par hasard vous avez des gènes physiques, mal quelque part, vous ne faites absolument rien. Vous remarquez juste avec attention ce qui vous arrive, mais vous ne faites rien, vous n'essayez pas de le changer, vous n'essayez pas de le transformer. Vous êtes juste là. Et un tout petit peu de silence. Et il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Vous entendez le silence. Ou peut-être le silence vous entend. Peut-être vous remarquez que vous respirez, vous n'avez absolument rien à faire parce que de toute manière vous respirez naturellement. Mais vous pouvez juste porter une certaine attention au fait que vous respirez sans du tout chercher à changer votre respiration. Mais c'est tout à fait étonnant, mais tout à fait naturellement, on inspire et on expire. Et au fond, simplement en respirant, on perpétue la vie. Et on pourrait dire que simplement en respirant, on dit oui à la vie en soi. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment juste un tout petit moment, mais j'espère que ça vous donne un petit goût de un petit goût de la manière dont c'est vraiment extrêmement simple, mais je crois très profond et très décisif. Merci beaucoup.